Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Campagne référendaire, une faible mobilisation constatée. C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. La campagne référendaire a débuté le 2 juin dernier. Les camps du oui et du non s'activent pour mobiliser des adhérents à leur cause. Mais cet effort semble être concentré uniquement à Bamako, regrette des observateurs. Dans les régions, beaucoup confirment qu'ils ne connaissent ni le contenu du document, ni la manière de voter. Comment s'organisent les activités au niveau de chaque camp? Est-ce que cette faible mobilisation impactera le processus? C'est ce que nous allons tenter de savoir aujourd'hui avec nos invités qui sont Mamadou Diko de l'Union pour la République et la Démocratie URD. Bonsoir, Monsieur Diko.
Bonsoir.
À ses côtés, Abdoulaye Traoré, président du Parti pour le Rassemblement et la Justice sociale, RJS. Bonsoir, Monsieur Traoré.
Bonsoir, Marianne.
Andié Adamandara est notre troisième invité. Il est de la Coalition pour l'Observation citoyenne des élections au Mali, COSEM. Bonsoir, Monsieur Dara.
Bonsoir, Mariam.
Je suis Mariam Koulibaly à la présentation de ce Grand Dialogue. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
La campagne référendaire se poursuit à l'intérieur du pays. Certains partis politiques ont invité les militants à voter oui, notamment dans les régions de Gao et de Sikasso. Le point avec Aïssata Diarra.
À Gao, le Parti Union pour la République et la Démocratie URD a appelé ce dimanche ses militants à voter les oui. C'était à travers une rencontre d'échange sur le projet de la nouvelle constitution. À Niafenke, le même jour, le mouvement Alliance pour la refondation du Mali Arima a organisé un grand meeting à la place de l'indépendance pour inviter ses partisans à voter oui les jours de scrutin. Par ailleurs, la remise officielle des cartes de lecteur a débuté ce lundi matin à la mairie de Tombouctou. Le gouverneur et les coordinateurs de l'EJ ont lancé un appel aux citoyens pour y retirer leurs cartes. Selon les coordinateurs, une équipe sera mobilisée pour le retrait des cartes. Aussi à Ségou, le lancement de la remise de la carte nationale biométrique sécurisée et la réception des matériels électoraux par la commission de l'autorité indépendante de gestion des élections ont été faits ce lundi matin. Au total, 80 000 cartes seront distribuées dans la région. La distribution des cartes débutera ce mercredi, précise les responsables.
Alors, M. Mamadou Diko de l'Union pour la République et la Démocratie URD, est-ce que ce reportage reflète la situation actuelle sur le terrain?
Je voudrais, avant de répondre à cette question, m'acquitter du traditionnel devoir de saluer vos auditeurs, vos téléspectateurs qui nous font l'honneur et le plaisir de nous écouter. Vous remerciez vous-même pour cette belle initiative qui permet au débat démocratique de se faire. Oui. Je pense que ce reportage confirme que les états-majors des partis politiques sont en mouvement, ceux pour le oui et d'autres pour le non. Ce que je peux dire, mon parti en particulier, est depuis le 2 juin à la tâche. Le reportage vient de le confirmer à Gao. À Bamako aussi, nous nous attelons, nous participons à de nombreux débats, notamment celui de cet après-midi-là. Demain, le président du mouvement des jeunes de notre parti organise une conférence de presse, un point de presse, sur justement ce référendum. Nous tous nous appelons à voter massivement pour ce nouveau projet de constitution, pour des raisons simples. C'est un projet qui consacre l'avènement d'un certain nombre de choses, notamment la création de la Cour des comptes pour être conforme aux directives de lui au moins, la création du Sénat, un pan important de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, la prise en compte des Maliens de l'extérieur, dont l'apport à l'économie nationale n'est plus à démontrer, ils seront désormais représentés à l'Assemblée nationale, la sanction du nomadisme politique, aujourd'hui un des fléaux majeurs de notre pratique politique, de notre pratique démocratique, c'est le nomadisme. Donc, la Constitution, le projet qui nous est soumis, nous permettra de fixer des grands principes par rapport à la mise à terme de cette pratique qui discrédite la politique et qui discrédite les acteurs politiques. Dans ce projet, il y a aussi la prise en compte de l'handicap, notamment la prise en compte de nos concitoyens qui vivent avec un handicap. Je crois que c'est une valeur important de notre société, que la Constitution en fixe le principe, me paraît une excellente chose. Il y a aussi la prise en compte et la valorisation de nos langues nationales, qui deviendront désormais des langues officielles. Il y a également la remise en surface de nos autorités légitimes, de nos traditions, de nos légitimités traditionnelles. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque fois qu'un citoyen a un problème avec un autre, nous avons cette habitude de nous transporter soit vers le chef de village, soit vers le chef de quartier, soit vers l'imam, pour exposer nos différends afin de trouver une solution. Désormais, avec l'adoption de cette nouvelle constitution, ce rôle qui existe déjà, qui est dévolu à cette légitimité traditionnelle, aura une valeur constitutionnelle. Et je pense que c'est une très bonne chose. Il y a un autre aspect, non moins important. Le fait que le mariage est désormais consacré comme étant l'union entre un homme et une femme. Ça intrigue certains. Pourquoi cela? Parce que c'est naturel.
Non. Ce n'était pas le cas avant dans l'autre constitution.
Ça a toujours été le cas. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde à l'humanisme abîmé, aux mœurs abîmées. Vous n'êtes pas sans savoir que dans certaines sociétés de ce monde-là, les mariages sont possibles entre deux femmes et entre deux hommes. Il est important que notre pays, qui suit aussi l'évolution du monde, se donne des garde-fous pour parer à toute éventualité, pour créer un véritable bouclier contre des dérives parées qui ne sont pas conformes à nos mœurs. Mais plus important que tout ça, madame, ce référendum ouvre un cycle heureux, un cycle vertueux, des retours progressifs de notre pays vers l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, notre pays, depuis bientôt 3 ans, est dans une transition. Il est important qu'on en sorte, et qu'on en sorte avec des bonnes élections, qu'on en sorte avec des bons textes, avec des textes qui consacrent et qui renforcent la refondation et la démocratisation de notre pays. Je pense, pour toutes ces raisons, nous devons nous mobiliser pour créer les conditions d'un vote massif en faveur de ce projet. En tout cas, mon parti est à la tâche. Il est d'autant plus à la tâche qu'il se reconnaît dans l'essentiel des propositions faites, parce que mon parti, je le rappelle, avait réfléchi à travers un atelier historique tenu à Sélingué les 18 et 19 novembre 2018, où nous avons fait des propositions dont l'essentiel se retrouve dans le nouveau projet. Je rappelle que toutes ces réflexions ont été partagées avec l'ensemble de la classe politique.
On va donner la parole à M. Abdoulaye Traoré. Il est le président du parti Rassemblement pour la Justice Sociale, RJS. Il fait partie aussi de plusieurs mouvements, dont l'appel du 20 février. M. Traoré, quel est votre avis sur la campagne référendaire qui est en cours actuellement? Est-ce que vous rejoignez un peu les propos de M. Mamadou Diko de l'URD?
Merci Mariam. Et merci de m'avoir invité sur votre plateau, comme d'habitude. C'est un grand honneur pour nous. Je suis aussi vice-président de Djigui-Yakoura. Je pense que depuis le début de cette transition, nous avons eu une position tranchée, affichée, et puis très cohérente par rapport à la transition, par rapport à tous ces aspects. Et moi, je suis très étonné de voir l'URD, qui est quand même un grand parti politique, une grande formation pour qui j'ai un grand respect, et qui était géré par le grand président Faye Soumaïla Cissé, paix à son âme. Alors, un grand démocrate, un grand républicain, et qui a toujours défendu la République, les principes républicains. Et j'ai vu ces partis URD. Nous avons même cheminé ensemble en 2017, et quand le président Faye Ibeka était au pouvoir. Alors, nous nous sommes battus contre un projet référendaire de ce genre. Alors, pour des raisons que l'IRD connaît, que nous connaissons. Donc, aujourd'hui, je suis très étonné que l'IRD prenne une autre position, alors que les raisons pour lesquelles on se battait n'ont pas du tout changé. À l'époque, on se battait contre ce projet référendaire pour des raisons d'insécurité. On se battait pour dire que alors le président, il était en train de violer les textes. Donc quand je vois, on était dans un débat, il y avait plein de raisons. Donc aujourd'hui, quand je vois ces mêmes URD, un grand parti politique républicain, Alors, soutenir une junte militaire et un projet séparatiste, hasardé, je trouve ça anachronique. Donc, à titre de rappel, je dis, la constitution dans un pays, c'est quand même la mère des lois, c'est la loi fondamentale, c'est elle qui régit. Alors, comment les institutions du pays fonctionnent, les interactions, c'est elle qui définit les droits fondamentaux des citoyens, etc., etc. Alors, à la différence des autres projets référendaires, nous avons toujours cette constitution de 92 qui est en vigueur, qui n'est ni suspendue ni dissoute. Alors, et c'est sur cette constitution que les autorités actuelles, notamment le président de la transition, le colonel Assimi, a doublement juré sur la constitution de 92, mais aussi sur la charte de la transition. Donc, aujourd'hui, quand on voit ces mêmes présidents, alors vouloir changer ou modifier cette constitution, nous ne pensons qu'il est dans une tentative de violation, sinon il est dans une violation. Donc le peuple doit l'arrêter pour l'en empêcher.
Alors, Monsieur Andy Adamandara, pour ce premier tour de table, il y a de la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali COSEM. Quel est votre regard sur cette campagne référendaire qui a déjà commencé sur le terrain? Qu'est-ce que vous constatez?
Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, Mariam. Bonsoir à mes chers aînés. Vous l'avez dit, nous sommes particulièrement dans tout ce qui est observation électorale et tout ce qui est mécanisme d'observer les opérations référendaires. Et jusque-là, comme vous l'avez annoncé depuis le début de l'émission, c'est que les opérations, les actions, les activités sur le terrain sont assez timides. Et néanmoins, cette timidité fait aussi son écho. Parce que c'est vrai que les activités ne sont pas aussi énormes que ça, mais le peu d'activités qui se passent sur le terrain, particulièrement concentrées à Bamako, fait aussi son écho à travers le pays. Dans les régions, quitte à l'intérieur du pays, ça ce n'est pas nouveau. Tout commence, tout part de là, et nous sommes qu'à 5 jours. Donc l'ouverture, c'est le 2, et nous sommes aujourd'hui aussi 5 jours. Donc nous pensons que petit à petit, les choses vont aller en s'améliorant. Donc, sur le terrain actuellement, il est évident que c'est vraiment assez timide, mais cette timidité n'est pas comme s'il y a du silence dans l'atmosphère.
Petit à petit, les choses vont évoluer. Vous êtes du même avis, M. Diko?
Je n'ai pas de doute. Comme il l'a dit, nous sommes qu'à 4 jours de l'ouverture de la campagne. Elle doit durer 2 semaines. J'espère et je suis convaincu que ça va s'améliorer.
Déjà sur le terrain, qu'est-ce que vous faites?
Ma participation à ce débat est la preuve de l'engagement de mon parti au service de ce référendum. Je vous ai annoncé que demain, le président des jeunes de mon parti prendra la parole pour appeler toute la jeunesse URD et au-delà toute la jeunesse du Mali à voter pour ce référendum, pour l'adoption de cette nouvelle constitution qui va consacrer le premier pas d'un Mali grand, d'un Mali rayonnant et d'un Mali réformé. Maintenant, l'URD a été nommément cité par mon voisin de gauche. Il rappelle que l'URD a fait partie de Ante Abana et qu'il est étonné que l'URD soit aujourd'hui dans un projet de révision constitutionnelle. Je rappelle que Ante Abana, l'URD en était membre, comme il l'a dit, mais Ante Abana s'opposait à une révision constitutionnelle en mettant en avant les dispositions de l'article 118 qui ne permettaient pas d'aller à une révision de la Constitution et dont le dernier alinéa dit explicitement ceci, qu'aucune initiative de révision ne pouvait être poursuivie s'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Le distinguo qu'il faut faire à ce niveau, c'est que la Constitution de 92, notamment l'article 118, parle précisément de la révision. Or, pour l'occurrence, il s'agit carrément de l'adoption d'une nouvelle Constitution. La nuance me paraît de taille. Il est important que mon ami de gauche là le comprenne et le fasse partager avec ses amis. Maintenant, l'URD n'est pas un parti qui réunit son itinéraire. J'ai rappelé notre séminaire de 2018 qui est consécutif lui-même à une crise post-électorale. Souvenez-vous, en 2018, quand Soumaïla, Ibrahim Bokar Keïta a été élu, nous l'avons contesté. Nous sommes restés dans les rues pour contester son élection pendant presque 6 mois. Une mission de la CEDEAO s'est dépêchée à Bamako, a réuni les acteurs politiques et a demandé au Mali de ne plus engager d'élection avant de mettre en œuvre un certain nombre de réformes. D'où notre atelier pour faire des propositions qui, dont je rappelle, pour l'essentiel, ont été prises en compte dans ce nouveau projet. C'est pourquoi nous nous reconnaissons là-dedans. Nous pensons que c'est une occasion qu'il ne faut pas rater pour réformer notre pays. Je comprends. La démocratie, c'est comme ça. Il y en a qui sont d'accord, d'autres ne le sont pas. Moi, j'entends qu'on me conteste, qu'on me dise le mal fondé des propositions contenues dans ce projet-là. Maintenant, les questions de forme, on pourra toujours en débattre. Aujourd'hui, qu'on remette là en cause la qualité du président de la transition, je rappelle que toutes les constitutions que le Mali a connues, elles ont été élaborées dans des périodes de transition avec des régimes d'exception. Le régime d'exception, c'est un régime qui offre à la fois des possibilités et des opportunités. Je pense que les Maliens doivent les saisir pour permettre à notre pays de sortir du petit débat politicien qui n'est pas sain, qui ne nous fait pas avancer et qui les regarde dans la même direction, ne serait-ce que pendant cette période de transition qui est accidentelle, qui est consécutive à une insuffisance dont certains responsables de Djigyakoura ont été acteurs. C'est incontestable. Je crois que le président de Djigyakoura fait partie du gouvernement déchu et qui n'a pas fait les choses dans les règles de l'art et qui a occasionné la transition actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Je les invite à faire montre de plus de patriotisme en acceptant que tout ce qu'ils veulent peut ne pas se retrouver dans ce projet. Il est évident, nous on a des propositions qui ne sont pas là-dedans, mais l'essentiel y est. Et je pense que le Mali, exsangue comme il l'est aujourd'hui, le Mali, en proie à toutes les difficultés que vous connaissez, a besoin de donner l'image d'un pays consensuel qui va vers dans la même direction. Un projet de constitution, c'est pas le référendum, c'est pas une élection partisane. L'élection partisane viendra où chacun défendra ses positions, chacun défendra son histoire, chacun défendra son itinéraire, chacun défendra ses projets. Ce jour-là, croyez-moi, l'URD sera là en face de n'importe qui pour faire valoir ses vues et ses points de vue.
Abdoulaye Traoré, il y a M. Diko qui parle de patriotisme, de faire preuve de plus de patriotisme. Vous, vous rejetez carrément cette nouvelle constitution. Est-ce que de votre côté, vous mobilisez vos adhérents, vos membres pour rejeter à leur tour ce document ?
Et merci Mariam. Avant de répondre à cette question, je souhaiterais quand même réagir par rapport à son propos. Quand il dit nouvelle constitution, moi je dirais c'est encore pire. C'est encore pire. Parce que premièrement, et la constitution de 92 sur laquelle le président ou les autorités actuelles ont prêté serment ne prévoit pas de nouvelle constitution. Deuxièmement, quand il s'agit d'élaborer une nouvelle constitution, cela suppose un standard international que l'existant n'est plus, qu'il n'y a plus de constitution dans le pays. C'est en ce moment qu'on va penser à une nouvelle constitution. Mais vous avez déjà prêté serment sur une constitution dont le respect alors scrupuleux incombe sur tous les citoyens, y compris les présidents de la France, parce que le Mali c'est un état des rois. Donc le respect des lois s'impose et sur le président, les gouvernants, mais aussi sur les citoyens. Donc aujourd'hui nous sommes dans une violation de la constitution de 92, ça c'est clair et net. Maintenant, et il fait allusion aux autres tentatives. Et à titre de rappel, en 1968, précisément 19 novembre 1968, quand il y a eu le coup d'État contre le régime de Modibo Keïta, mais le CMLN d'alors a pris sa responsabilité en dissolvant la constitution d'alors. Deuxièmement, en 1991, quand il y a eu coup d'État contre le général Moussa Traoré, alors, le CTSP,
dirigé par Amadou Toumani Touré, a pris sa responsabilité en dissolvant complètement la constitution d'alors. Après, nous avons pensé, lors de la conférence nationale, à faire cette constitution de 92.
C'est ce que vous aurez souhaité cette fois-ci.
Maintenant, en 2020, il n'y a pas eu de coup d'État, selon eux-mêmes, selon ces mêmes autorités. On a vu à la télévision nationale un président élu, alors démissionné, en dissolvant son gouvernement, son assemblée nationale, et puis sa présidence. Et après, le peuple s'est retrouvé lors d'une conférence pour donner la charte de la transition, ce qui fait réglementer la transition. Donc aujourd'hui, nous dire que on va faire un changement de constitution, c'est vraiment encore pire. Donc nous sommes en train de violer notre loi fondamentale. Donc nous allons nous battre. Alors, avec tous les moyens légaux dont nous disposons vraiment pour empêcher cela.
En termes de mobilisation, qu'est-ce que vous faites?
En termes de mobilisation, nous continuons toujours à dire à nos militants vraiment de ne pas s'associer à cette forfaiture, parce que c'est une forfaiture. Et d'ailleurs, nous avons même entrepris des recours au niveau de la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse se saisir, avoir la régularité de ce processus référendaire. Mais nous avons aussi fait des recours au niveau de la Cour suprême pour excès de pouvoir. Donc nous attendons alors ce résultat. Et entre-temps, nous continuons vraiment à informer, à sensibiliser à travers les conférences, les points de presse et toutes les communications politiques.
Monsieur Andier Adama Antara, on entend parler de campagne référendaire, mais qu'est-ce qui différencie cette campagne référendaire des autres campagnes, notamment présidentielles et législatives, par exemple?
La différence entre une opération référendaire et une opération que l'on connaît d'habitude, c'est quoi? C'est que déjà quand on prend même la définition du référendum, le référendum c'est quoi? C'est un vote que l'on propose, une initiative que l'on propose aux citoyens pour qu'ils puissent se prononcer soit par le rejet, soit par l'acceptation. C'est une proposition de l'exécutif. Ça peut venir du gouvernement, ça peut venir de la présidence, mais c'est une proposition soumise aux citoyens pour qu'ils puissent se prononcer sur cette proposition. Alors que les élections, que ce soit présidentielles ou législatives ou communales, ce sont les candidats eux-mêmes qui défendent. Il y a un projet de société qui est là, qui est défendu par chacun des candidats ou bien chaque camp qui voudra peut-être accéder à la magistrature suprême. Alors que le référendum, c'est juste une proposition qui est là et qu'on a offert sur un plateau pour qu'on puisse décider soit j'accepte, soit je refuse. Et au-delà de tout ceci, c'est que quand on prend le référendum, c'est, vous l'aurez constaté, soit c'est le camp de oui, soit c'est le camp de non. Le plus important dans tout ça, c'est qu'on puisse vraiment mobiliser le maximum de citoyens pour qu'ils puissent se prononcer.
Alors, M. Diko, inciter les populations, par exemple, à aller retirer leur carte d'électeur, est-ce que cela fait partie de votre stratégie, votre campagne référendaire?
Absolument. Oui. Nous avons invité, continuons à inviter nos militants aller retirer leurs cartes, aller retirer leurs documents qui leur permettent de participer à ce vote qui est un vote citoyen, qui encore une fois n'est pas un vote partisan. Il s'agit du référendum. Je suis étonné que malgré les développements faits, on ne parvient pas à contester la pertinence et l'intérêt des propositions contenues. On est dans ce nouveau projet. On parle toujours de forme. Moi, je rappelle simplement qu'une constitution est une loi politique, est une loi citoyenne. Je peux comprendre que des gens, pour des raisons qui leur sont personnelles, disputent la qualité ou la légitimité de celui qui le porte. J'ai rappelé ici que toutes les constitutions qui ont été élaborées l'ont été par des régimes de transition, par des régimes d'exception. Ils mettent en avant le fait que la constitution actuelle n'est pas dissoute. Je rappelle que la constitution, le projet actuel est complémentaire de la constitution en vigueur. Surtout, ce qu'il faut essentiellement rappeler aussi, c'est que le projet actuel prend en compte toutes les dernières tentatives. Et Dieu seul sait, il y en a eu. Le président Alpha Omar Konaré a essayé de révisiter cette constitution. Le président Ibeka l'a essayé. Le président Amadou Toumani Touré l'a essayé. Et toutes ces tentatives ont été capitalisées dans le nouveau projet. Ceux qui aujourd'hui défendent le non, ils étaient parmi ceux qui pensaient que, en tout cas, ils ont appartenu à un gouvernement porté à l'époque par Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait voulu révisiter la constitution de 92, qui a fait des propositions qui ont été prises en compte dans le projet actuel. Encore une fois, la constitution, ça ne devrait pas donner lieu à un débat, à un clivage politicien, à des querelles politiciennes. C'est une loi politique qui a pour vocation de fixer les grands principes qui doivent gouverner l'action publique dans notre pays et qui doivent réglementer le pouvoir entre les institutions. J'attends que M. Traoré rentre dans les éléments proposés, qu'il me dise en quoi tel élément n'est pas pertinent, tel élément ne doit pas être là. En ce moment, le débat aurait du sens. Sinon, rester dans les généralités, dans le débat politicien là, je ne pense pas que ça puisse éclairer les opinions. Aujourd'hui, il est partisan du non. C'est son droit.
Du rejet.
Du non. Il est partisan du non.
Du rejet.
Du rejet. Qu'il explique aux concitoyens en quoi ce projet doit être rejeté. Moi, je suis en train de me battre pour expliquer à nos concitoyens pourquoi ils doivent voter oui, parce que j'estime qu'il y a des choses extrêmement importantes et positives qui ont été mises dans ce projet, qui permettent de réconforter notre démocratie et d'améliorer notre pratique institutionnelle. En même temps, renforcer la cohésion sociale par la remise en surface des légitimités traditionnelles, par la prise en compte de nos concitoyens qui vivent avec le handicap. Voilà les questions fondamentales sur lesquelles le débat devait être focalisé. Je crois que c'est parti. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, dispose aujourd'hui de toute la légitimité pour engager ce débat. Il est le président de la République qui nomme le gouvernement, qui nomme le premier ministre, qui accrédite les ambassadeurs, qui accrédite auprès de lui les ambassadeurs des pays étrangers. Je pense rentrer dans le débat de sa légitimité, de sa légalité pour engager quoi que ce soit qui concerne la République du Mali, c'est faire preuve de myopie tout simplement.
Monsieur Abdoulaye Traoré, président du Parti pour le Rassemblement et la Justice sociale, il y a monsieur Diko qui trouve que votre rejet, en quelque sorte, n'est pas justifié.
Pas argumenté. Merci, Mariam. En fait, je n'étais pas rentré dans les fonds, j'étais dans la forme. Je vais encore évoquer d'autres raisons. Mariam, quand vous-même vous venez de dire, demander si les reportages reflétaient à ce que nous vivons tous les jours, à ce que nous voyons, et naturellement, lors des campagnes passées, on voit que s'il y a un projet, s'il y a une campagne référendaire, alors il y a l'engouement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça s'explique parce que le peuple n'y adhère pas. Et pourquoi ? Et Mariam, quand vous essayez de prendre ce projet, il n'est pas opportun. Pourquoi ? Parce qu'il divise les Maliens. Ce projet, il divise la classe politique. Ce projet, il divise la société civile, à commencer par les religieux. Il y a un grand pan, une grande partie. Alors, des religieux aujourd'hui qui rejettent ce projet, alors à cause du fait qu'il y a la question de la laïcité dans ces projets. Même si on n'est pas en train de les prendre au sérieux, mais le gouvernement sera surpris dans les jours à venir de voir et de comprendre qu'ils ne doivent pas négliger aucune couche vraiment sociale de notre pays. La laïcité, la question de la laïcité, c'est un concept qui est global, qui n'est pas compris. Donc, nous pensons que le gouvernement devrait se donner le temps pour bien expliquer ce concept-là à tous les Maliens, qu'ils soient religieux ou pas, parce que la laïcité ne prend pas seulement en compte la question religieuse, c'est un tout. Ça prend en compte beaucoup d'autres choses qui n'est pas la religion. Troisième chose, Mariam, regarde le projet de référendum là, ça divise les Maliens, ça crée des problèmes. Et rien que la question de l'accord d'Alger, sinon les mouvements armés, hier soir seulement, tous les mouvements armés regroupés dans ce qu'ils appellent CSP, alors on fait un communiqué pour dire qu'ils ne s'y retrouvent pas. Est-ce que, Mariam, nous allons faire
les têtus, excuse-moi les termes, pour faire un référendum sans les Nord, sans Kidal. Moi, je trouve ça hasardé, moi, je trouve ça dangereux. Dans ce même projet de constitution, vous verrez que dans notre constitution actuelle, la constitution de 92, qui a consacré en son article 121, qui dit ceci: tout pouvoir en République du Mali réside dans la constitution, et que la forme républicaine de l'État ne peut être remise en cause, et que le peuple peut exercer son droit vraiment de désobéissance civile. Je ne dis pas textuellement les choses. Maintenant, c'est cette disposition-là. Mais on a voulu la torpiller en enlevant la forme républicaine de l'État. Et on l'a changé. Qu'est-ce qu'on veut faire? Deuxième chose, on dit tout putsch est un crime imprescriptible en République du Mali, selon la constitution actuelle. Donc, le coup d'État est interdit, c'est une grande infraction, c'est une infraction pénale. Alors, dans ce projet, on dit que le coup d'État est un crime imprescriptible, mais au même moment, on dit que le coup d'État qui a été perpétré contre le régime d'Ibeka là est pardonné, alors ne sera pas sanctionné. Nous nous trouvons ça anachronique. Nous pensons que une simple loi d'amnistie pouvait quand même alors gérer ces choses-là politiquement. On n'a pas à mettre ça dans notre constitution. Quand on met ça dans notre constitution, ça, c'est même pas bon pour ces autorités actuelles. Parce que ça voudrait dire tout simplement, même demain, un autre colonel ou un autre capitaine peut se lever un bon jour, il fait tout bonnement son coup d'État, il organise son référendum et puis il s'installe. Donc, vraiment, il y a plein de choses comme ça dans le projet de la constitution. Dernière chose, quand vous prenez les dispositions qui concernent le pouvoir judiciaire, la constitution actuelle qui nous régit, la 92, dit clairement que alors le magistrat n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Tandis que dans le projet de la constitution, on a modifié cette disposition pour dire que c'est le juge qui est soumis à l'autorité de la loi. Mais et les autres, les procureurs et autres là, donc seront soumis à quoi? À l'autorité politique. Donc vraiment, nous pensons que ça affecte alors pleinement le pouvoir judiciaire, la séparation, le principe de la séparation vraiment des pouvoirs. Donc vraiment, nous continuons à expliquer à nos militants que ce projet, il n'est pas pertinent, ce projet, il est dangereux, ce projet... Alors, s'il est voté, alors il va permettre à ceux qui avaient dans un premier temps la volonté de se séparer du Mali, un projet séparatiste, on va vraiment leur permettre d'ouvrir un boulevard.
Alors, M. Andié Adamandara, nous n'allons pas vous demander de vous prononcer pour le oui ou pour le non, mais il y a M. Abdoulaye Diarra qui estime que ce document sépare un peu la classe, la société civile. Est-ce que vous êtes du même avis?
Ce document...
Oui, en termes de laïcité et les groupes armés qui ne s'y retrouvent pas.
Oui, ce qui est sûr, il y a des interprétations différentes de ces notions, de ces concepts au sein de la société civile, ça c'est unanime. Et maintenant, quitte à diviser au vrai sens du terme, c'est à comprendre. Je voudrais aussi toucher un aspect, il m'en a donné l'occasion, ce n'est pas, comme vous l'avez dit, pour dire oui ou pour dire non. Aujourd'hui, la véritable question que l'on doit se poser en tant que société civile, en tout cas nous au niveau de la COSEM, c'est que est-ce qu'il faut des réformes, oui ou non? Est-ce qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse changer les choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'aujourd'hui, en l'état où nous sommes en tant que société civile, quel est vraiment notre véritable rôle pour que l'on puisse appeler ce Malikoura et que l'on puisse vivre dans ce Malikoura? Ce qui est sûr, c'est que tout le monde est unanime, l'unanimité est là, qu'il faut vraiment du changement. Maintenant, ce changement, il faut qu'on soit d'accord sur l'approche de ce changement. Et pour cette approche-là, chacun tous les acteurs, que ce soit les politiques, que ce soit la société civile que nous sommes, nous avons chacun notre rôle à jouer dans ce processus-là. Maintenant, pour des questions relatives à des concepts qui sont dans la Constitution ou à des questions relatives à la forme même de l'opération référendaire, ça, c'est d'autres aspects qu'il faut gérer ailleurs. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut qu'on trouve vraiment un consensus et qu'au sortir de cette transition, M. Diko l'a dit, la transition est une opportunité. Maintenant, comment profiter de cette opportunité pour que chaque Malien et chaque Malienne, en tant que société civile d'abord, puisse pouvoir jouer son rôle de pacificateur, son rôle de changement, pour qu'on puisse vraiment avoir ce Malikura que tout le monde souhaite. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut un changement. Maintenant, l'approche, c'est ce qui pose problème au niveau de la société civile.
Mamadou Diko, de l'Union pour la République et la démocratie URD. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tous les Maliens sont au même niveau d'information sur le contenu de ce document et sur la façon de voter?
Avant de répondre à cette question, je voudrais rappeler quand même à mon ami Abdoulaye Traoré que quand on est dans des plateaux pareils, il y a des déclarations péremptoires qu'on ne doit pas faire.
Qui sont?
Quand il dit « le peuple n'y adhère pas ». Je rappelle qu'il n'incarne pas le peuple ici. Le peuple est justement interrogé le 18 juin pour se prononcer. On verra. S'il dit oui, ça veut dire que c'est un désaveu cinglant pour lui. S'il dit non, c'est un désaveu pour nous. Laissons le peuple décider. N'affirmons pas qu'il n'adhère pas. Son adhésion ou pas dépendra justement de ce référendum. Battez-vous pour que le peuple adhère ou non. En ce moment-là, vous serez en droit de dire que le peuple n'a pas adhéré. Aujourd'hui, je pense manquer un peu d'humilité de dire que le peuple n'y adhère pas. Je rappelle aussi que ce projet de constitution n'est pas tombé ex nihilo. Il est l'émanation des assises nationales. On peut se prononcer sur la légitimité des assises, mais moi je considère que les assises qui se sont tenues en fin décembre 2021 sont suffisamment représentatives des couches sociales, des couches politiques de notre pays. Et c'est elles, ce sont ces assises-là qui ont décidé de doter notre pays d'un nouveau projet de constitution, d'une nouvelle constitution. Donc ce n'est pas le colonel Assimi ou le gouvernement qui l'ont décidé. C'est encore une fois les assises nationales, représentation indiscutable des populations maliennes qui l'ont décidé. Ils disent que ce projet divise les Maliens. J'aimerais bien savoir en quoi il divise les Maliens. L'accord d'Alger, l'accord issu du processus d'Alger dont il parle, le projet actuel prend en compte, je l'ai rappelé dans mes propos préliminaires, un pan entier de la mise en œuvre de cet accord pour permettre justement la prise en compte de certaines, comment dire, d'un pan entier de l'accord, à savoir la représentativité de certaines personnes au niveau du Sénat. Le Sénat, il vise justement l'approfondissement de la mise en œuvre de l'accord, qui, je rappelle, est mise en œuvre dans presque toutes les dispositions, dans tous ces aspects qui relèvent des dispositions législatives et réglementaires. C'est le cas des autorités intérimaires, c'est le cas du MOC, c'est le cas du CSP dont tu as parlé. Ça, c'est des éléments de mise en œuvre de l'accord d'Alger. Le Sénat, justement, vise à mettre en œuvre un pan important de cet accord issu du processus d'Alger. Il parle de laïcité. Je rappelle aussi à ce niveau que la laïcité existe dans la Constitution de 92. Celle qui nous est soumise aujourd'hui explicite la laïcité. Je pense que si les gens ont des problèmes personnels, s'ils ont des problèmes politiques à régler, ils peuvent les régler. Je rappelle que la Constitution, ce n'est pas un moment de clivage partisan. Ce n'est pas un moment de règlement de comptes. Les citoyens sont invités à aller dire oui à une loi fondamentale. Battons-nous. L'idéal aurait été que le consensus prévale. Vous avez posé la question à M. Dara, quelle est la différence entre cette opération référendaire et les autres opérations? La différence, c'est que l'opération référendaire est un moment de consensus. Par contre, l'élection présidentielle est un moment de clivage partisan. Chacun voudrait que son candidat soit le président, chacun voudrait être député, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment doter notre pays d'une loi fondamentale qui puisse gouverner son avenir. encore une fois, mon ami, malgré tout le développement fait, il n'est pas été capable, de mon point de vue,
de
remettre en cause
l'émission. Mais
qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui qui sont contenues
pour
dans
que les populations en faveur du oui puissent sortir massivement pour aller...
Il faut amplifier la campagne.
Oui.
Il faut multiplier des initiatives de ce genre.
Mm-hmm.
J'ai rappelé que nous, notre parti est déjà à la tâche.
Mm-hmm.
Il y a eu un meeting l'autre jour à Gao. Demain, le président des jeunes de notre parti sera à la maison de la presse pour appeler non seulement les militants de l'URD, mais l'ensemble de la jeunesse malienne a voté ce projet.
Monsieur Abdoulaye Traoré, du camp du rejet, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur le terrain pour que vos militants rejettent carrément, comme vous l'avez dit, ce
merci
document.
Mariam.
Il ne nous reste plus assez de temps.
Merci. Mm-hmm. Avant de répondre à ça, j'ai dit encore que mon frère Dico, il me prête encore les flancs,
mm-hmm,
en me parlant de la fameuse question des assises nationales des refondations.
Il ne nous reste
plus nationale des refondations, ce sont des actes de fait. Ce ne sont pas des actes de droit. Ils ne sont inscrits nulle part, ni dans la charte, ni par la Constitution. Alors que les présidents ou les autorités, tout ce qu'ils doivent faire sur la base de la loi et des règlements de notre pays. Donc, c'est quand il dit les assises nationales qui disent ça, bon, nous pensons que vraiment ça, c'est nul et non avenir, parce que les assises, c'était une activité partisane. C'était les partisans des autorités, des amis du militaires qui s'étaient retrouvés en conclave pour quand même nous parler de ça. Donc, je continue. Nous continuons vraiment à parler dans nos partis avec nos militants et avec les Maliens, comme je l'ai dit. On a notre façon aussi. C'est vrai, nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de l'État. Nous ne disposons pas les moyens de l'État. Nous avons des moyens très réduits, mais nous avons notre stratégie, nous avons notre détermination et notre courage, alors qui nous permettent vraiment de mieux communiquer avec les Maliens, épris vraiment d'un état de droit, d'un état vraiment de justice sociale. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous disons que beaucoup de gens ont compris. Alors si on retourne seulement d'une année, mais il y avait une grande ferveur pour cette transition, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Parce que les gens commencent à comprendre que c'est de la poudre aux yeux,
que c'est de la duperie,
que c'était de la tromperie. Donc, on ne voit pas de résultats. Donc, vraiment, nous allons continuer à nous battre pour faire en sorte que ce référendum-là n'ait pas lieu, mais légalement.
Monsieur Andy Adama Ndara, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que l'organisation de ce référendum soit une réussite?
Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment intensifier les campagnes. Il faut faire vraiment comprendre à tous les Maliens ce que le contenu de la Constitution, mais surtout l'objectif visé par cette opération référendaire. Je voudrais rappeler à mes co-débatteurs que, avant d'être parti politique, avant d'être URD ou RGS, ils sont avant tout société civile. Et quand il y a échec, l'échec, ce sera pour toute la société civile qui va en pâtir. Comme vous l'avez dit, à la COSEM, on n'est pas là pour dire qu'il faut aller voter oui, qu'il faut aller voter non, mais qu'il y a lieu de s'interroger vraiment sur l'objectif et que vraiment, si les choses ne se déroulent pas comme il le faut, quelles seront les conséquences pour nous qui sommes de la société civile.
En une minute, monsieur Dico.
Il a rappelé un point qui me paraît extrêmement important, la magistrature. Je considère que ce projet consacre davantage l'indépendance de la magistrature. Il parle de juges. Évidemment, tous les juges sont soumis à l'autorité de la loi. C'est pourquoi les juges du siège sont inamovibles.
Vos une minute sont épuisées, monsieur Dico. Le thème de grand...
Conseil supérieur de la magistrature est ouvert à d'autres qui ne sont pas magistrats. C'est une première.
Le thème du grand dialogue d'aujourd'hui, c'était la campagne référendaire, une faible mobilisation constatée. C'était le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Nos invités sont Mamadou Diko de l'Union pour la République et la démocratie URD. À ses côtés, M. Abdoulaye Traoré du Parti Rassemblement pour la justice sociale et M. Andy Adama Ndara de la Coalition pour l'organisation citoyenne des élections au Mali COSEM. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir à vous présenter cette émission qui a été réalisée par Imran Akilou Maïga. À demain, Inch'Allah.